Vous pourriez me dire quand vous êtes allé au lac Charmel pour la dernière fois?
Il y a 8 ans.
En passant des canalisations, une pelleteuse de la DDE a déterré 2 corps près du lac.
On a entendu parler à la radio.
Vous les avez identifiés?
Non, non, les analyses sont en cours. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit de 2 hommes blancs, tués par balle il y a plus de 5 ans.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis désolé de remettre toute cette histoire sur le tapis. Je sais que l'assassin de votre femme a été jugé.
Arrêtez votre bâtard. À l'époque, vous pensiez que je l'avais tué.
Vous étiez son mari dans ce genre d'affaires. Les chances qu'un proche soit impliqué.
Vous n'avez pas perdu de temps avec ces conneries, hein. Vous l'auriez peut-être retrouvé avant qu'il soit mort.
Le travail de mes collègues était d'examiner toutes les possibilités, docteur.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
On dit qu'il faut du temps pour digérer un drame, qu'on est anesthésié, qu'on n'est pas apte à accepter la tragique réalité. C'est faux, pour moi en tout cas. J'ai compris toutes les implications dès l'instant où l'on a découvert le corps d'Elisabeth. J'ai compris que je ne la reverrais plus, qu'on n'aurait jamais d'enfant, qu'on ne vieillirait pas ensemble. J'ai compris que c'était définitif, qu'il n'y aurait pas de sursis, que rien n'était négociable. J'ai entendu des conneries du style « avoir aimé et perdu, c'est déjà positif ». Encore une idée fausse. Je vous assure, ce n'est pas positif. Qu'on n'aille pas me montrer le paradis pour ensuite le réduire en cendres. Voilà pour l'aspect égoïste. Moi, ce qui me rendait malade, c'était de songer à tout ce dont Elisabeth avait été privée. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où je vois quelque chose, où je fais quelque chose qui lui aurait plu. Et rien que d'y penser, la blessure se remet à saigner. Les gens se demandent si j'ai des regrets. La réponse est un seul. Je regrette chaque minute où j'ai été occupé à autre chose qu'à rendre Elisabeth heureuse. Cet homme qui a perdu la femme qu'il aimait, c'est David Beck, un pédiatre vivant à New York. Il avait tout pour être heureux. Mais sa vie a basculé un soir d'été dans sa propriété du lac Charmaine en Pennsylvanie, lorsque son amour de jeunesse et épouse, Elisabeth, a été sauvagement assassinée. La vie a repris et Beck a tenté de se reconstruire. Mais un étrange message anonyme va faire ressurgir les fantômes du passé. Après Fred Vargas la semaine dernière, je vous propose de découvrir un autre grand auteur de polar aux 50 millions de livres vendus, Harlan Coben. Américain, il ne jure que par Dumas et Simenon et a reçu les prix littéraires les plus prestigieux. Chacun de ses romans est un best-seller. Ce soir, nous allons parcourir l'un de ses meilleurs livres, Tell No One, Ne le dis à personne, adapté au cinéma merveilleusement bien en 2006 par Guillaume Canet. Un grand polar, mais surtout une très belle histoire d'amour, traduite par Roxane Azimi. Tout a commencé près du lac Charmaine, là où Beck et Elisabeth ont passé leur adolescence. Beck et Elisabeth se connaissent depuis la classe de CE1. Ils se marient, ils ont 25 ans. Charmaine, propriété de la famille Beck, est le lieu de leur amour. Les arbres alentour portent la gravure de leurs initiales. Ce grand terrain abritait à l'époque des colonies de vacances. Aujourd'hui, le couple s'y rend pour fêter leur anniversaire. Les voici un soir, arrivant en voiture, heureux et seuls. Il faisait nuit quand nous sommes retournés au lac. La lueur solitaire de la lune trouait l'obscurité. Elisabeth et moi, nous sommes déshabillés rapidement. Je l'ai regardée, baignée par le clair de lune, et j'ai senti ma gorge se nouer. Elle a plongé la première, troublant à peine la surface de l'eau. Je l'ai imitée gauchement. Le lac était étonnamment tiède. Elisabeth nageait avec des mouvements précis, réguliers, fendant l'eau comme si celle-ci s'écartait sur son passage. Je l'ai suivie en barbotant. Les sons rebondissaient sur le lac pareil à des galets. Elle a pivoté et s'est blottie dans mes bras. Sa peau était chaude et mouillée. J'adorais sa peau. Nous nous sommes enlacés. Elle a pressé ses seins contre ma poitrine. Je sentais les battements de son cœur, entendais sa respiration, les bruits de la vie. Nous nous sommes embrassés. Ma main s'est égarée au creux de l'exquise cambrure de son dos. Puis j'ai agrippé le radeau et me suis effondré dessus. Je pantelais, les jambes écartées, les pieds dans l'eau. Elisabeth a froncé les sourcils. « Dis donc, tu vas pas t'endormir ?»« Si, comme une masse. » Tu parles d'un mec. Je me suis allongé, les mains derrière la tête. Un nuage a voilé la lune, transformant la nuit bleue en quelque chose de grisâtre. L'air était immobile. J'ai entendu Elisabeth sortir de l'eau, monter sur le ponton. J'avais beau plisser les yeux, je parvenais tout juste à distinguer sa silhouette nue. Elle était tout simplement renversante. Mon radeau était en train de s'éloigner de la rive. Je voulais faire le point sur ce qui m'était arrivé. Mais même moi, je ne comprenais pas tout. Je commençais à perdre Elisabeth de vue. Tandis qu'elle se fondait dans le noir, j'ai pris une décision. J'allais lui dire tout. Hochant la tête, j'ai fermé les yeux. Je me sentais redevenir léger. L'eau clapotait doucement. Soudain, j'ai entendu s'ouvrir une portière de voiture. Je me suis rassis. « Elisabeth ?» Silence total, excepté ma propre respiration. J'ai cherché sa silhouette des yeux. Elle était à peine distincte, mais l'espace d'un instant, je l'ai vue. Ou j'ai cru la voir. Je n'en suis pas sûr maintenant. Et de toute façon, ça n'a plus d'importance. Quoi qu'il en soit, Elisabeth s'était figée, peut-être face à moi. J'ai dû cligner des yeux, ça non plus, je n'en suis pas sûr. Et quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. Mon cœur a fait un bond. « Elisabeth !» Pas de réponse. Alors j'ai paniqué. Je suis tombé du radeau, j'ai nagé en direction du ponton. Mais je faisais du bruit, beaucoup trop de bruit. Ça m'empêchait d'entendre ce qui se passait. Il se passait quelque chose. Je me suis arrêté. « Elisabeth ?» Pendant un long moment, il n'y a pas eu le moindre son. La lune était toujours cachée derrière le nuage. Peut-être qu'Elisabeth était remontée dans la voiture pour y prendre quelque chose. J'ai ouvert la bouche afin d'appeler encore une fois. C'est là que je l'ai entendu crier. J'ai baissé la tête et je me suis remis à nager de toutes mes forces, battant des bras, poussant sur les jambes. Mais le ponton était encore loin. J'essayais de scruter la rive, il faisait trop sombre. Les rares échappées de la lune n'éclairaient rien. J'ai entendu une sorte de raclement, comme quelque chose qu'on aurait traîné par terre. Devant moi se trouvait le ponton, à 6 mètres, pas plus. J'ai nagé plus vite. Mes poumons étaient en feu. J'ai bu la tasse, les bras tendus, j'ai tâtonné dans le noir. À la recherche de l'échelle, je l'ai empoignée et je me suis hissé sur le ponton. Les planches étaient mouillées. J'ai regardé la cabane en vain. Il faisait trop noir. « Elisabeth !» Quelque chose du genre batte de baseball m'a frappé au plexus. Les yeux exorbités, pliés en deux, suffoquant, j'ai cherché mon souffle. Un nouveau coup, cette fois sur le sommet du crâne. J'ai entendu un craquement, comme si on m'avait planté un clou dans la tempe. Mes jambes se sont dérobées. Je suis tombé à genoux. Le coup suivant m'a atteint en plein visage. J'ai basculé en arrière dans le lac. Mes yeux se sont fermés. J'ai entendu Elisabeth hurler de nouveau. Cette fois, elle criait mon nom. Mais les bruits, tous les bruits se sont dissous tandis que je m'enfonçais sous l'eau. Beck s'en est sorti, mais Elisabeth est morte. Son corps a été retrouvé au bord de la route 3 jours après cette soirée au lac Charmaine. L'enquête a désigné le meurtrier Kilroy. Il a tué près de 18 femmes, les marquant chacune de la lettre K. Il est désormais dans le couloir de la mort. 8 ans ont passé. David Beck a repris le cours de sa vie. Pédiatre, il s'occupe des enfants qui vivent sans couverture sociale.
Écoutez, on ne se connaît pas bien, mais je vais me permettre de contredire votre médecin traitant. On va arrêter la cortisone parce que je pense pas que ce soit avec ça qu'on va guérir son eczéma. En revanche, ce qui lui ferait du bien à votre enfant, c'est que vous la laissiez vivre un peu.
Célibataire, proche de sa sœur Linda et de son ami le mannequin Shauna, il vit avec son grand-père et sa chienne Chloé. Un jour, il reçoit un coup de fil du shérif Lowell qui lui annonce que 2 cadavres ont été déterrés de sa propriété du lac Charmaine. À côté des corps, on a retrouvé une batte de baseball couverte de sang séché, le sien. Une chose en entraînant une autre, le policier commence à l'interroger sur la mort de sa femme, pourtant affaire classée, et sur une certaine Sarah Goodhart, dont le nom a fait brutalement surface. Beck sait de qui il s'agit. C'est un pseudo qu'Elisabeth s'était choisi il y a longtemps pour plaisanter. Bouleversé, il coupe court à la conversation car il vient de recevoir un email, expéditeur inconnu. Objet, ses initiales et celles d'Elisabeth. Il lit le message. Clique sur ce lien, heure du baiser. La première fois qu'il a embrassé sa femme, il s'en souvient, c'était à 18h15. Il regarde l'horloge, 18h12, et il clique. Quelque chose est apparu sur l'écran de l'ordinateur. Une caméra de surveillance extérieure. J'ai vu un paysage urbain en noir et blanc. Le reste de la page était vide, sans bannière ni titre. La caméra était braquée sur un carrefour passablement animé, qu'elle surplombait peut-être de 4 ou 5 mètres. J'ignorais où se trouvait ce carrefour et quelle était la ville qui s'étendait sous mes yeux. Mais aucun doute, c'était une grande ville. Les piétons affluaient principalement du côté droit, tête basse, épaules rentrées, attachés caisse à la main, épuisés, après une journée de travail, se dirigeant probablement vers une gare ou un arrêt d'autobus. Au bout, à droite, on distinguait le trottoir. Les gens arrivaient par vagues, sûrement en fonction du changement des feux tricolores. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi m'avoir envoyé cette image-là ? L'horloge affichait 18h14 et 21 secondes. Moins d'une minute à attendre. Les yeux rivés sur l'écran, je suivais le compte à rebours comme si on était la veille du jour de l'an. Mon pouls s'est accéléré. 10, 9, 8. Un nouveau raz-de-marée humain traversait l'écran de droite à gauche. J'ai détaché le regard de l'horloge. 4, 3, 2. Retenant mon souffle, j'attendais. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur l'horloge, elle affichait 18h15 et 2 secondes. Il ne s'était rien passé. La marée humaine s'est retirée. L'espace d'une seconde ou deux, il n'y a eu personne à l'écran. Je me suis carré dans mon fauteuil. C'était une blague. Une blague bizarre, malsaine même. Mais enfin. Sur ce, quelqu'un est sorti directement dessous la caméra. On aurait dit que cette personne était cachée là pendant tout ce temps. Je me suis penché en avant. C'était une femme. Je la voyais bien, mais elle me tournait le dos. Cheveux courts. De là où j'étais, je n'avais pas réussi à distinguer les visages. Le sien n'était pas une exception, jusqu'à un certain moment. La femme s'est arrêtée. Je fixais le sommet de sa tête comme pour la conjurer de lever les yeux. Elle a fait un pas. À présent, elle se trouvait au milieu de l'écran. Quelqu'un est passé à côté d'elle. La femme ne bougeait pas. Puis elle s'est retournée et lentement a levé le menton de façon à regarder la caméra bien en face. Mon cœur a cessé de battre. J'ai enfoncé mon poing dans ma bouche pour étouffer un cri. J'étais incapable de respirer, incapable de réfléchir. Les larmes me sont montées aux yeux. Je la dévisageais, elle me dévisageait. Un autre flot de passants a submergé l'écran. Quelques-uns l'ont bousculé, mais la femme n'a pas bronché. Son regard était fixé sur la caméra. Elle a levé la main pour la tendre vers moi. La tête me tournait, comme si le lien qui me rattachait à la réalité venait d'être tranché. Et je voguais, impuissant, à la dérive. Elle gardait la main en l'air. Lentement, j'ai réussi à lever la mienne. Mes doigts ont effleuré l'écran tiède, s'efforçant de l'atteindre. Les larmes coulaient à nouveau. J'ai caressé doucement le visage de la femme. Mon cœur a chaviré et s'est embrasé tout à la fois. Elisabeth. Elle est restée là encore une seconde ou deux. Puis elle a dit quelque chose à la caméra. Je ne pouvais pas l'entendre, mais j'ai lu sur ses lèvres « Pardon ». A articulé silencieusement ma femme morte. Et elle est partie.
Lover, bonheur, des mouvements délicats, juste sous mes doigts si fragiles. Qu'elle seule peut voir et sentir. Je l'aperçois tout là-bas. Moi, je fais ce qu'elle veut. Je comprends pas vraiment. Elle veut le kung-fu d'elle. Trésor, des ombres, elle me cache. Des herbes folles qui s'envolent. Je parcours presque ses envies. Lover, outsider. Tango déglingué, dernier pari de l'autre côté, de la dangereuse qui se rend. Je l'aperçois tout.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Beck, sous le choc, n'a pas le temps de se remettre. Peu après cette apparition, il reçoit un autre email avec cet avertissement « Ne le dis à personne ». Sans indice de l'expéditeur, il commence à croire qu'Elisabeth est peut-être vivante. Tandis qu'il s'interroge, la nouvelle des deux cadavres retrouvés sur sa propriété n'intéresse pas que les policiers. L'information parvient aux oreilles du milliardaire Griffin Scope, qui avait engagé le duo il y a 8 ans pour effectuer un certain travail. Griffin, qui veut savoir ce qui s'est passé, demande à ses hommes de main, les crapuleux Larry Gundle et Eric Wu, surnommés l'Asiatique, de surveiller Beck. Ce dernier est depuis peu suivi par la police. Pire, par le FBI.
Bonjour, pourriez-vous nous suivre, s'il vous plaît?
Pourriez-vous me dire ce qui se passe?
Bonjour, docteur.
Je peux savoir de quoi il s'agit?
On va attendre d'être dans nos bureaux. On sera beaucoup mieux, vous verrez.
Deux agents, Carlson et Stone, l'abordent un jour dans la rue et l'obligent à monter en voiture pour l'interroger. Vous est-il arrivé de battre votre femme, Doc? Dit Carlson. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de fouet. Quoi? Répondit Beck. Ça vous interpelle de taper sur une femme? Quoi? Vous êtes malade? Quelle somme avez-vous touché de l'assurance vie à la mort de votre épouse? Ce n'est pas un secret, le contrat portait sur 200 000 $. Stone émit un sifflement. 200 000 pour une épouse décédée, dis donc, Carlson. Je m'inscris sur la liste. Les mots se bousculaient sur mes lèvres. Le plus drôle, alors que je n'avais rien fait de mal, c'est que je commençais à me sentir coupable. Répondez à ma question, Doc, et ne faites pas l'outrager, reprit Carlson. Vous est-il arrivé de frapper votre femme? Jamais. Pas une seule fois? Pas une seule fois. Ni de la pousser? Jamais. Ni de vous en prendre à elle dans un moment de colère? Bon sang, on est tous passés par là, Doc. Une baffe, c'est pas un crime. Dans les affaires de cœur, c'est même plutôt naturel, non? Je n'ai jamais frappé ma femme, ai-je insisté. Je ne l'ai jamais poussée ou giflée. Jamais. Carlson s'est gratté le menton. Il s'est emparé d'une grosse enveloppe en papier Kraft, puis l'a ouverte et la levant a vidé son contenu. C'était des photos. Carlson les a poussées vers moi. J'ai baissé les yeux sur elle et la déchirure dans mon cœur s'est élargie. Docteur Beck, le regard fixe, j'ai effleuré le papier du bout des doigts. Elisabeth. C'était des photos d'Elisabeth. La première était un gros plan sur son visage. Elle se tenait de profil, écartant de la main droite les cheveux de son oreille. Elle avait un œil au beurre noir, une profonde entaille et d'autres bleus dans le cou. Sur une autre, elle avait été prise en buste, vêtue seulement d'un soutien-gorge. Elisabeth désignait une grosse décoloration sur sa cage thoracique. « Docteur Beck, vous pensez que c'est moi qui ai fait ça ?» Carlson a haussé les épaules. « Qu'en dites-vous ? » ?»« Bien sûr que non. Savez-vous d'où lui viennent tous ces bleus ?»« D'un accident de voiture, elle a eu un mauvais accrochage. »« Quand ?»« Je ne sais plus très bien, 3 ou 4 mois avant... »« Avant sa mort. »« Est-elle allée à l'hôpital ?»« Je ne crois pas. »« Vous ne croyez pas ?»« Je n'étais pas là. »« Où étiez-vous ?»« À l'époque, je faisais un stage de pédiatrie à Chicago. »« Elle m'a parlé de l'accident à mon retour. » Vous étiez déjà marié à ce moment-là? Depuis quelques mois seulement. Pourquoi ne vous l'a-t-elle pas dit tout de suite? Je suppose qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Je vois. Carlson a regardé Stone. Ils ne se donnaient pas la peine de dissimuler leur scepticisme. Aviez-vous déjà vu ces photos auparavant? Je n'ai pas répondu. Ils attendaient. J'ai réfléchi à la question. La réponse était non, mais où les avait-il eues? Comment se faisait-il que je ne sois pas au courant de leur existence? Qui les avait prises? J'ai scruté leur visage, rien ne transparaissait. C'était plutôt stupéfiant, mais quand on y pense, c'est la télé qui nous enseigne les plus grandes leçons de la vie. L'immense majorité de nos connaissances sur les interrogatoires, les droits du prévenu, l'auto-accusation, les listes de témoins, les systèmes du jury, nous les puisons dans New York Police Blue et compagnie. Alors j'ai levé les yeux et posé la question traditionnelle. « Suis-je suspect ?»« Suspect de quoi ?» reprit Carlson. « N'importe. Me soupçonnez-vous d'avoir commis un crime ?»« C'est drôlement vague comme question, Doc. » Et c'était drôlement vague comme réponse. Du coup, j'ai décidé de sortir une autre phrase entendue à la télévision. Je voudrais téléphoner à mon avocat. Pourquoi ces photographies resurgissent 8 ans après la mort d'Elisabeth? Et pourquoi Beck est-il tout d'un coup suspecté d'avoir violenté sa femme et de l'avoir même tuée? Sur les conseils de son ami Shauna, il contacte un avocat, la très médiatique Esther Krimstein, qui est déterminée à prouver son innocence. Il téléphone aussi à la plus ancienne amie d'Elisabeth, la photographe Rebecca Chase, pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Elle lui apprend qu'à l'époque, le soir du prétendu accident, Elisabeth était venue la voir, couverte de bleu, lui demandant une faveur. Si quelqu'un posait des questions, elle devait dire qu'elles avaient eu toutes les deux un accident de voiture.
Nous n'avons trouvé aucune trace de cet accident de voiture. Ni dans les fichiers d'assurance, ni dans ceux de la police. Admettons que votre gendre ait décidé de tuer votre fille.
C'est absurde.
Pensez au scénario officiel, avec toutes ses lacunes, et comparez-le à celui-ci. Beck conduit votre fille dans un endroit isolé où il sait qu'il n'y aura pas de témoins. Là, les deux individus qu'on a retrouvés la semaine dernière kidnappent et tuent votre fille. À l'époque, certains s'est vu dans la région, on en parle dans tous les journaux. Le corps est maquillé comme une victime de certains, avec des cadavres de chats et de chiens. Elle t'aurait joué. On lui fait porter le chapeau.
Sauf que certains a avoué 7 meurtres, mais jamais celui de votre fille.
Tandis que Carlston et Stone interrogent les parents d'Elisabeth sur la personnalité de leur gendre, Beck cherche un indice dans les affaires de sa femme. Il trouve un vieil agenda avec à l'intérieur des coordonnées suspectes et 2 initiales, P.F. Il appelle et prend rendez-vous avec Peter Flannery, avocat. Tous les faits et gestes de Beck sont pistés par Gandel et l'Asiatique, les hommes de main du milliardaire Griffin Scope, qui veulent savoir après quoi il court. Ils parviennent à trouver l'adresse de Rebecca et s'introduisent un soir dans son atelier, dans l'idée de la faire chanter. Et justement, la photographe arrive à ce moment-là, l'esprit occupé par des questionnements existentiels. Rebecca aimait bien venir ici la nuit. C'est dans cette solitude mêlée des bruits nocturnes de la ville qu'elle se sentait le plus artiste. Le monte-charge s'est arrêté, elle a soulevé la grille et sorti dans le couloir. Toutes les lumières étaient éteintes ici. Elle a tiré ses cheveux en arrière et les a noués en une épaisse queue de cheval, puis elle a scruté sa montre, presque 9 heures. Le bâtiment devait être vide, de toute présence humaine du moins. Ses chaussures claquaient sur le ciment froid. La vérité, et Rebecca avait beaucoup de mal à l'admettre, c'est que plus elle y pensait, plus elle se rendait compte qu'elle voulait des enfants, et que la ville était le dernier endroit où les élever. Des enfants, il leur fallait un jardin, une balançoire, le grand air. Rebecca était sur le point de prendre une décision qui aurait sans nul doute enchanté son trader de mari quand elle a introduit la clé dans la serrure et poussé la porte de son studio. Elle est entrée, a appuyé sur l'interrupteur. C'est là qu'elle a vu l'Asiatique bizarrement bâti. Une seconde ou deux, l'homme s'est contenté de la dévisager. Rebecca s'est figée sur son regard. Il a fait un pas de côté, la contournant presque, et son poing s'est abattu au bas de son dos. Ça a été comme si elle s'était pris un coup de marteau dans les reins. Rebecca s'est effondrée sur ses genoux. L'homme lui a empoigné le cou avec 2 doigts. Il a appuyé sur un point de pression. Rebecca a vu des éclairs. De sa main libre, l'homme lui a enfoncé des doigts aussi acérés que des pics à glace dans le diaphragme. Quand il a atteint son foie, les yeux lui sont sortis des orbites. La douleur surpassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle a voulu hurler, mais seul un grognement étranglé s'est échappé de sa bouche. Du fond de la pièce, une voix d'homme lui est parvenue à travers le brouillard. « Où est Elisabeth ?» Rebecca est retrouvée morte le lendemain. Beck, qui continue son enquête parallèle, n'est pas présent chez lui quand la police vient perquisitionner son domicile. Un revolver avec 6 empreintes est retrouvé dans son garage. Il s'agit de l'arme qui a tué Rebecca. Beck est officiellement inculpé pour assassinat. Il reçoit un coup de fil de son avocate Esther Krimstein qui lui demande de se rendre aux autorités. Mais il refuse. Il a reçu un nouveau message. Elisabeth l'attend à Washington Square Park, il en est sûr. Il lui faut juste sortir de son bureau sans se faire repérer. J'ai ouvert la porte et risqué un œil dehors. Les flics me tournaient le dos. Je me suis glissé dans le couloir. Il y avait une sortie de secours derrière. Je pouvais filer par là et me rendre à Washington Square Park. Arrivé à la porte, je me suis hasardé à regarder en arrière. L'un des flics m'a repéré. Il a pointé le doigt, puis s'est hâté dans ma direction. J'ai poussé la porte et pris mes jambes à mon cou. J'avais peine à le croire. J'étais en cavale. La porte a claqué et je me suis retrouvé dans une rue sombre juste derrière la clinique. Une rue que je ne connaissais pas. Ça peut paraître bizarre, mais ce quartier-là n'était pas le mien. Je venais, je travaillais, je repartais. Tel un vieux hibou, je restais enfermé entre quatre murs, sans fenêtre. Une rue parallèle à mon lieu de travail et j'étais complètement perdu. Spontanément, j'ai pris à droite. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir à la volée. « Arrêtez-vous, police !» Ils ont vraiment crié ça. Allaient-ils tirer ? Il n'y avait pas grand monde dans la rue. Les rares passants ne m'accordaient qu'une attention furtive. Je continuais à courir. Le monde défilait en un éclair. J'ai croisé un individu patibulaire avec un Rottweiler patibulaire. Des vieillards assis dans un coin se plaignaient de leur journée. Les femmes étaient chargées de sacs. Des gamins qui normalement auraient dû être en classe s'adossaient à tout ce qu'ils trouvaient. Et moi, je fuyais pour échapper à la police. Ça, mon esprit avait du mal à l'assimiler. J'avais des fourmillements dans les jambes, mais l'image d'Elisabeth face à la caméra m'aiguillonnait, me poussait en avant. Je respirais trop vite. On nous parle de l'adrénaline, comment elle nous regonfle et nous donne une force peu commune. Seulement, il y a un revers. La sensation est grisante, incontrôlable. Elle aiguise les sens jusqu'à la paralysie. Il faut canaliser l'énergie, sans quoi elle risque de vous étouffer. J'ai plongé dans une allée, mais elle aboutissait à une impasse, encombrée des bennes à ordures les plus nauséabondes de la planète. J'ai cherché une issue, une porte, quelque chose. Il n'y avait rien, pas la moindre sortie de secours. J'ai pensé briser une fenêtre, mais celle du bas était garnie de barreaux. Seule solution, rebrousser chemin et me faire cueillir par la police. J'ai regardé à droite, à gauche, puis, curieusement, vers le haut, les escaliers d'incendie. Il y en avait plusieurs au-dessus de ma tête. Toujours branché sur la pompe à adrénaline, j'ai sauté de toutes mes forces, les mains tendues, et je suis retombé sur le derrière. J'ai recommencé sans plus de résultats. Les échelles étaient beaucoup trop hautes. Que faire ? La puanteur devenait insupportable, elle s'engouffrait dans mon nez. Puis soudain, une radio qui grésille. Genre radio de police. Je me suis plaqué au mur et j'ai tendu l'oreille. Me cacher, vite. Le grésillement s'intensifiait. J'ai entendu des voix. Les flics se rapprochaient. J'étais totalement à leur merci. Un hurlement de sirène a déchiré l'air immobile, des sirènes pour moi, des pas venant dans ma direction. Il n'y avait qu'un seul endroit où se cacher. J'ai plongé dans une benne. Du lait qui a tourné, ça a été la première odeur qui m'a accueilli. Mais ce n'était pas la seule. Ça ressemblait à du vomi, ou pire, j'étais assis dedans. C'était mouillé et putride, gluant. J'ai entendu courir devant l'entrée de l'allée. Je me suis recroquevillé. Un rat a escaladé ma jambe. J'ai failli hurler, mais quelque chose a empêché ma voix de sortir. Le grésillement s'est tu. Avais-je réussi à les semer ? Si oui, pas pour longtemps. D'autres sirènes s'étaient jointes au concert. Un véritable tintamarre. Les flics avaient reçu du renfort. Ils ne tarderaient pas à revenir, à inspecter l'allée. J'ai agrippé le bord de la benne pour me hisser dehors. La rouille m'a entamé la paume, ça saignait. Jusqu'où ma fuite éperdue m'avait-elle menée ? Impossible de dire. Mais une chose était sûre, je ne devais pas rester là. La cavale était un bon plan, mais si j'avais une destination, ce serait encore mieux. J'ai décidé de pousser en direction de l'Est, quitte à me retrouver dans des quartiers moins sûrs. Le métro, la voilà la solution. Il suffisait de monter dans une rame, de changer plusieurs fois à l'improviste et je parviendrais sans doute à disparaître. J'essayais de faire surgir mentalement le plan du métro quand un policier a tourné dans l'allée. Il était tout jeune, propre sur lui. Il a sursauté en m'apercevant, aussi surpris que moi par cette rencontre inopinée. Nous nous sommes figés l'un l'autre. J'ai paniqué, je n'ai écouté que ma peur. J'ai foncé droit sur lui. Mon corps est entré en collision avec le sien. Je l'ai empoigné par les épaules comme un singe s'accroche à un grillage. Nous avons basculé. J'ai plié les genoux et je les ai enfoncés dans sa poitrine. J'ai entendu un craquement. Le jeune flic a émis doucement une sorte de « pfft ». L'air a déserté ses poumons. À mon avis, il avait la mâchoire brisée. En proie à la panique la plus totale, je me suis relevé en titubant. J'allais partir en courant quand j'ai senti sa main sur ma cheville. J'ai baissé les yeux. Il avait mal par ma faute. Bien campé sur mes jambes, je lui ai asséné un coup de pied dans les côtes. Un filet de sang a coulé de sa bouche. Je n'en revenais pas de ce qui m'arrivait là. Je l'ai frappé de nouveau, juste pour qu'il me lâche, et j'ai fui. Beck a une idée. Appelé Tyrese, le père d'un enfant qu'il soigne depuis plusieurs années, un homme costaud qui trempe dans divers trafics. Il a beaucoup fait pour son garçon et Tyrese lui avait dit un jour de ne pas hésiter s'il avait besoin d'aide. Et il en a besoin. Tyrese le rejoint, lui fournit une arme, une voiture et l'accompagne au Washington Square Park. Là-bas, Beck attend seul sur un banc, dans l'espoir de voir apparaître sa femme, mais personne ne vient. Décidé à partir, il se fait kidnapper par Gendel et l'Asiatique avant d'être sauvé in extremis par Tyrese qui l'emmène à son autre rendez-vous chez l'avocat qu'Elizabeth avait l'air de connaître, Peter Flannery. Le voici dans son bureau, lui parlant de son épouse défunte. Était-elle une cliente, Monsieur Flannery ? Il s'est raclé la gorge. Non, ce n'était pas une cliente. Mais vous vous souvenez de l'avoir rencontrée ? Il a remué sur son siège. Oui. De quoi avez-vous parlé ? C'était il y a bien longtemps, Docteur Beck. Autrement dit, vous ne vous rappelez plus. Mais votre femme, elle n'a pas été assassinée ? J'ai l'impression d'avoir vu ça aux informations, répondit-il. Pourquoi est-elle venue ici, Monsieur Flannery ? Je suis avocat, a-t-il répliqué. J'ai besoin d'être rétribué pour mon temps. Vous aviez parlé d'une provision. Tyrese était déjà passé à l'action. L'alias était sorti, il comptait les billets et il a jeté 3 Ben Franklin sur le bureau. Flannery a contemplé l'argent sans le toucher. Et si je refuse de vous parler? Je ne vois pas pourquoi. Vos entretiens avec elle ne relèvent pas du secret professionnel, n'est-ce pas? Flannery a planté son regard dans le mien. Vous aimiez votre femme, Docteur Beck? Oui, beaucoup. Vous êtes-vous remarié ? Non. Partez, reprit-il. Prenez votre argent et partez. C'est important, Monsieur Flannery. J'ai du mal à l'imaginer. Elle est décédée depuis 8 ans, son assassin est dans le couloir de la mort. Qu'avez-vous peur de me révéler ? Ai-je insisté. Flannery n'a pas répondu tout de suite. Tyrese s'est à nouveau détaché du mur, s'avançant vers le bureau. Il m'a regardé, j'ai secoué la tête. J'avais tout mon temps. « Vous n'avez pas besoin de savoir, » a-t-il repris au bout d'un moment. « J'y tiens. Ça ne vous rendra pas votre femme. S'il vous plaît. » « En ce temps-là, je faisais de l'assistance judiciaire, » a-t-il commencé. « J'ai été commis d'office dans l'un des plus grands procès pour meurtre de l'État, celui de Brandon Scope, le fils du milliardaire. Vous vous souvenez ?» Je me suis figé, terrifié. J'osais à peine respirer. Pas étonnant que le nom de Flannery me soit familier. Brandon Scope. C'était le dernier nom que j'avais envie d'entendre dans sa bouche. Brandon Scope, 33 ans, avait été détroussé et tué 8 ans de cela. 8 ans, oui. Peut-être 2 mois avant l'assassinat d'Elizabeth. Il avait été abattu de 2 balles et abandonné à côté d'un chantier dans Harlem. Son argent avait disparu. Les médias ont monté en épingle le travail de bienfaisance de Brandon Scope. Comment il aidait les gamins des rues. Comment il préférait travailler avec les pauvres plutôt que de diriger la multinationale de papa. C'était l'un de ces meurtres qui plongent le pays en état de choc. Une institution caritative a été créée depuis au nom du jeune Scope. C'est Linda, ma sœur, qui en est la gérante. Je me souviens, et je dis doucement, on a arrêté quelqu'un, vous vous rappelez? Elio Gonzalez, un gamin des rues, 22 ans au moment des faits. Son casier, on aurait dit le livre des records. Mais n'a-t-il pas été relâché pour finir? Si, il n'y avait pas grand-chose contre lui. On a trouvé des empreintes digitales sur le lieu du crime, mais parmi des tas d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? La police disposait de l'heure exacte du décès, a-t-il continué. Scope a été tué à 11 heures du soir. Je ne comprends pas que vient faire ma femme là-dedans. Je crois bien que votre femme travaillait aussi avec les pauvres dans le même bureau que la victime en l'occurrence. Et alors ? Elle l'a fait libérer. Qui ? Mon client, Elio Gonzalez. Votre femme l'a fait libérer. Comment ? En lui fournissant un alibi. Mon cœur s'est arrêté. Mes poumons aussi. J'en suis presque venu à me donner des coups sur la poitrine pour faire repartir la machine. Comment lui a-t-elle fourni un alibi ? J'ai hoché la tête, hagard. C'est simple. Elio et elle étaient ensemble à l'heure en question. Je n'ai rien vu de tel dans les journaux. Tout s'est fait dans la discrétion à la demande de votre femme. Tout a donc été bouclé le plus discrètement possible. D'autant plus qu'il y a eu... des problèmes avec le témoignage de votre femme. Elle avait plus ou moins menti au début. Elle a prétendu avoir reçu Gonzalez à son bureau pour discuter de son orientation professionnelle à l'heure du crime, mais ça, personne ne l'a gobé. Pourquoi ? Orientation professionnelle à 11 heures du soir ? C'est évident, non ? Dites toujours. Elle voulait éviter les ennuis pour elle-même et pour vous aussi. Elle était chez Gonzalez, Docteur Beck. Ils couchaient ensemble. Je n'ai pas réagi. Personne n'a parlé. Au loin, j'ai entendu le piaillement d'un oiseau, je me suis levé. « Merci pour votre temps », ai-je soufflé le plus calmement du monde. « Ce n'est pas vrai. » Il n'a pas répondu. Pour être honnête, je n'attendais pas de réponse. Beck trouve l'adresse d'Elio Gonzalez et part le rencontrer.
Qu'est-ce que tu veux savoir? Ouais, je l'ai baisé ta femme. Bien sûr, je l'ai baisé dans tous les sens, des mois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ferme ta gueule, toi. Sans déconner, je suis désolé. Voilà, je suis désolé.
T'as jamais baisé ma femme. Elle était à Lyon ce soir-là. Ouais. Et moi, je peux le prouver et faire sauter ton alibi. Moi, je sais pas si t'as buté le fils Novitch, j'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que moi, on m'accuse d'avoir tué mon ami d'enfance. J'aimerais savoir pourquoi. Alors, je te le dis, tu me dis tout ce que tu sais, autrement, tu vas aller te faire enculer en tôle.
Tu crois que j'ai peur d'aller en tôle? Je m'en bats les couilles de la tôle. Mais je l'ai pas buté, le fils Neuville. Ce soir-là, j'avais une affaire. J'avais pas d'alibi, elle m'a sorti de la merde, voilà.
Tu l'as revue depuis?
Mais arrête tes conneries, elle est morte.
Et pourquoi elle a fait ça pour toi?
Mais j'en sais rien, elle a dit à mon avocat ce que je devais dire, je l'ai dit. Point barre, maintenant tu te casses.
Beck ne sait plus quoi faire. Partout à la télévision, on parle de lui. Son visage est diffusé sur toutes les chaînes. Il est présenté comme un individu dangereux.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Now you're close to the door, between dark and light, I'm here on the floor. Staring at your face that glows in the day, so lightless tonight. So many things come to me from the past. Everything rings. And I can feel the blast. I came with a rose. Do you want me to stay? I have no other purpose anyway. Where are you walking now? On which riverside? Open the alone.
Ma femme a été amenée ici. Elle a été l'une des victimes de Certon.
Franck Certon?
Oui. C'est vous qui avez pratiqué l'autopsie?
Oui.
Vous photographiez tous les corps qu'on vous amène ici, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Donc vous avez pris des photos de l'autopsie de ma femme?
Sans doute.
Très bien, je voudrais les voir, s'il vous plaît.
Du côté de la police, l'enquête avance. Carlson, l'agent du FBI, qui soupçonnait Beck, a trouvé de nouveaux éléments étranges. En étudiant de près les pièces du dossier, il s'est rendu compte que le corps identifié à l'époque comme celui d'Elizabeth ne correspond en rien à sa taille et à ses mensurations.
C'est pas elle?
Ah bon, pourquoi?
Arrêtez vos conneries, hein. Elle a jamais fait 1m75. Sont où les photos?
Elle n'avait pas.
Ils pensent qu'elles ont été volées.
Par qui?
Et en vérifiant le nom de la personne qui avait reconnu le cadavre chez le médecin légiste, il découvre celui du père de la jeune fille. Hoyt Parker, policier de profession. Comment a-t-il pu identifier ce corps comme celui de sa fille? S'est-il trompé ou cache-t-il quelque chose? Ces interrogations permettent d'innocenter Beck, qui est de nouveau un homme libre. Reste à savoir où est Elisabeth et pourquoi elle a disparu pendant si longtemps. Shauna, qui la connaissait bien, arrive le lendemain très en retard pour un shooting. Elle essaye de reconstituer le fil des événements. Assise en face d'un miroir pour se faire maquiller, on lui apporte une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Dit-elle. Aucune idée, dit son assistante. Un coursier l'a apporté il y a 10 minutes, il a dit que c'était urgent. Elle a tendu l'enveloppe à Shauna, qui l'a prise d'une main et l'a retournée. À la vue du gribouillis familier, juste le mot Shauna, elle a senti son estomac se nouer. Les yeux rivés sur cette écriture, elle a articulé « Donnez-moi une seconde. » « C'est pas le moment de... »« Une seconde !» a interrompu Shauna. Le maquilleur et l'agent se sont écartés. Shauna a décacheté l'enveloppe. Une carte blanche avec la même écriture familière en est tombée. Shauna l'a ramassée. Le message était bref. « Va aux toilettes. » S'efforçant de respirer calmement, elle s'est levée. « Faut que j'aille faire pipi, c'est par où ?»« Au fond du couloir à gauche. Je reviens tout de suite. » 2 minutes plus tard, Shauna poussait la porte des toilettes, fermée. Elle a frappé. « C'est moi. » Et elle a attendu. Au bout de quelques secondes, elle a entendu le bruit du verrou. Il y a eu un silence. Prenant une grande inspiration, Shauna a poussé de nouveau. La porte s'est ouverte à la volée. Elle a fait un pas sur le carrelage et s'est figée. Devant elle, à côté de la cabine la plus proche, se tenait un fantôme. Shauna a ravalé un cri. La perruque châtaine, la silhouette amaigrie, les lunettes cerclées de métal, rien de tout ça ne pouvait masquer l'évidence. « Elisabeth, tire le verrou, Shauna. » Shauna a obéi machinalement. En se retournant, elle a esquissé un pas vers sa vieille amie. Elisabeth a eu un mouvement de recul. « S'il te plaît, on n'a pas beaucoup de temps. » Tu dois convaincre Beck que je suis morte. C'est un peu tard pour ça, Elisabeth. J'ai commis une erreur en revenant ici, une grossière erreur. Je ne peux pas rester, il faut que tu lui dises. On a vu, le rapport d'autopsie a coupé Shauna. Le génie est sorti, on ne peut plus le remettre dans la bouteille. Elisabeth a fermé les yeux. Que s'est-il passé, nom de Dieu ? Je n'aurais pas dû revenir. Ouais, tu l'as déjà dit. Il faut que j'y aille. « Tu ne peux pas, » rétorquer Shauna. « Quoi ? Tu ne peux pas disparaître de nouveau. Si je reste, il mourra. Il est déjà mort. Tu ne comprends pas, pas la peine. Si tu le quittes encore, il n'y survivra pas. J'attends depuis 8 ans qu'il se remette de toute cette histoire. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Les blessures se referment, la vie continue. Mais pas dans le cas de Beck. Je ne te laisserai pas repartir. » Il y avait des larmes dans leurs yeux. « Je ne peux pas rester, » a gémi Elisabeth faiblement. « Il le faut. » Shauna a avancé d'un pas. « Je suis tellement fatiguée de fuir, » a murmuré Elisabeth. « Je comprends. Je ne sais plus quoi faire, moi non plus. Mais la fuite n'est pas une solution. » Elisabeth a levé la tête. « Tu sais à quel point je l'aime ?»« Oui, » a dit Shauna, « oui, je le sais. Je ne veux pas qu'il souffre trop tard. » Elle se tenait maintenant à 30 centimètres l'une de l'autre. Shauna aurait voulu la prendre dans ses bras, cependant elle n'a pas bougé. « Tu as un numéro où le joindre ?» a demandé Elisabeth. « Oui, il est important. Dis-lui le dauphin. Je l'y attendrai ce soir. » Qu'est-ce que... Elisabeth s'est faufilée rapidement devant elle, a risqué un œil par la porte des toilettes et s'est glissée dans le couloir. « Il comprendra, » a-t-elle affirmé. Et elle est partie. Arlan Coben.
My two biggest
deux livres qui ont eu le plus de succès, hein, c'est Ne le dis à personne, et 6 ans déjà. Hein, je pense que les deux ont en commun d'être à la fois en fait des histoires d'amour et des thrillers. Hein, et ça, c'est toujours une chose universelle, c'est-à-dire que quand on est malheureux, on peut faire des choses qui sont très répréhensibles. Et ça. Et par contre, moi, vraiment, hein, les tueurs en série, ça m'ennuie. C'est James Bond, il m'ennuie, il peut tout faire. Mais des gens comme nous, en fait, qui dans ces situations extrêmes peuvent faire des choses extrêmes, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant.
Ça peut pas faire de mal.
Il faut que je vous demande quelque chose d'important. Je voudrais savoir comment elle était quand vous l'avez trouvée.
Quoi ?
Faut vraiment que je sache.
Il y avait des échymoses.
Sur son visage ?
Oui. J'étais là en tant que père pour l'identifier, pas en tant que gendarme.
Et vous ? Vous l'avez identifié facilement ? Vous dites qu'elle avait le visage plein de bleu ?
Tu m'emmerdes avec tes questions.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudier avec Delphine Baudet à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Valérie Bourg. Bonne soirée et à la semaine prochaine.